Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Jean-Luc Génère, Nadir Amaoui, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
La dernière nuit de Don Juan, ça vous parle ?
Ah oui, 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 bien sûr.
Pas du tout.
La dernière nuit de Don Juan, imaginez-vous que c'est...
Ça va être la Comédie Française.
C'est la dernière pièce de Edmond Rostand. Entraîné aux enfers par la statue du commandeur, que devient Don Juan ? Eh bien, Edmond Rostand nous le fait retrouver 10 ans plus tard dans un palais de Venise, prêt à se rendre au bal. Mais un montreur de marionnettes le contraint à revoir ses plans. Au cours d'une longue nuit de bataille avec le diable, qui se révèle être aussi un face-à-face avec lui-même, Don Juan doit affronter chacune de ses anciennes conquêtes, 1003 ombres portant toute la rose, le manteau, le masque et l'éventail. Alors après le feu d'artifice de Cyrano de Bergerac en 1897, les fêtes et les fastes de L'Aiglon en 1900 et de Chanteclerc en 1910, la dernière nuit de Don Juan a été publiée après la mort d'Edmond Rostand et elle brille d'une lueur crépusculaire. Il est temps de redécouvrir ce chef-d'œuvre qui est oublié, où vacille le mythe d'un séducteur impénitent. Alors si je vous en parle, c'est parce que ce sera à l'affiche du Studio Théâtre de la Comédie Française du 25 mai au 7 juillet dans une adaptation et mise en scène de Marie Zestier et Gallimard Folio Théâtre a l'excellente idée de ressortir...
Sauf que moi je connais la pièce, je l'ai lue, que c'est pas une très très bonne pièce malheureusement.
Non mais on aime bien...
mais c'est très 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 bien.
Vous qui aimez les intégrales.
Absolument, mais j'avais un peu l'intention d'ailleurs. Mais je crois qu'on l'avait joué parce que j'avais fait une intégrale sur Don Juan. Sur le thème de Don Juan.
Ça, c'est une bonne idée. Oui. Bon, ça vous intéresse ?
Ah oui, mais bien sûr que ça m'intéresse.
Je vais
relire.
Je vous donne le livre, comme ça vous allez pouvoir relire.
De la relire.
Et bravo à Folio Théâtre.
Oui, c'est formidable.
Ils font de très belles rééditions.
C'est très, très bien. C'est formidable. Et donc, ça, la dernière nuit de Don Juan, précipitez-vous.
Il faudra qu'on y aille.
En librairie, et puis il faut qu'on y aille entre le 25 mai et le 7 juillet au Studio Théâtre.
Pour une fois, ça joue assez longtemps.
De la Comédie Française, ça joue assez longtemps.
Oui, un mois et demi. On peut y aller.
Absolument. Donc, ça, c'est très, très bien. Nous avons vu Zourou.
Oui.
Alors Zourou, ça se joue tous les lundis au théâtre La Bruyère. Et alors attention, parce que la dernière, c'est
le 27 mai.
C'est-à-dire lundi prochain. Dans 3 jours, donc.
Non, la salle n'était pas pleine et il reste de la place.
La salle n'était pas pleine, il reste de la place. Et c'est une pièce assez déconcertante. Une fille autiste et qui est brinque-ballée entre son père, la nouvelle petite amie de son père, et puis Jérémy, qui est l'orthophoniste. Alors, ils font des origamis. Et vous savez que lorsqu'on fait 1000 origamis, eh bien, ça s'appelle un zambazourou. Et le vœu que l'on a... qu'on a évoqué en commençant, eh bien, se réalise si on a créé comme ça 1000 oiseaux. Alors vous imaginez, je vous parle de 1000, je vous parle d'oiseaux, je vous parle de jeunes filles autistes, et donc on est dans une féerie, une poésie de l'enfance, et alors on est défait devant le handicap, parce qu'on est impatient, comme les parents, de voir, merde, elle évolue pas, et puis quand elle pousse des colères, on se dit, mais c'est pas possible, et il faut dire que la comédienne est tout à fait exceptionnelle, parce que elle danse magnifiquement, elle est vraiment handicapée sur scène, enfin on y croit, elle incarne complètement son personnage. Et alors le père qui est un peu dépassé, qui va dire plusieurs fois tout ce que je fais pour elle, c'est pour son bien, et puis il se sent accusé, critiqué, et il va remettre en question forcément la relation entre sa petite fille et l'orthophoniste Jérémy. Personnellement, j'ai trouvé que c'était formidable, parce que ça nous parle du handicap, ça nous fait rentrer dans toutes les failles que l'on voit des parents, toute l'impatience que l'on a devant la différence. Jean-Luc Génère.
Alors,
vous étiez derrière moi.
Oui,
vous étiez
derrière. Oui, on est...
Jean-Luc était derrière, d'accord.
Oui, j'étais derrière.
J'ai un peu caché la scène.
Voilà. Non, mais j'ai tout vu quand même, vu, hein. J'ai tout vu. Alors, c'est un spectacle assez bouleversant, ça, il n'y a aucun doute. La comédienne, comment elle s'appelle ?
Morgane Lostis.
Morgane Lostis est excellente.
Incroyable.
Tout ça, voilà, tout ça fait un très bon spectacle. Voilà, alors maintenant, c'est pathétique d'une certaine façon, parce que on est en face de ce qu'on appelle les trucs américains, quoi, avec les bons sentiments. C'est une pièce pour moi qui joint le meilleur, parce qu'on est vraiment dans une émotion. Il y a une scène à la fin qui est bouleversante, où vraiment on peut avoir les larmes aux yeux. Mmh. Et puis à côté de ça, on est en face d'une espèce de profonde sottise, d'une primarité totale avec l'espèce de procès contre les gens qui critiquent le handicap, qui sont cons comme des balais parce qu'ils vont, voilà. Donc cette espèce d'un racisme anti-handicapé qui est dénoncé comme ça, c'est dénoncé avec une sottise, une primarité qui moi me sort du spectacle. En plus de ça, donc il y a sur ce plan idéologique qui est là, qui fait comme c'est pas fait avec délicatesse, avec véritablement intelligence, on est un peu gêné par ce genre de choses. Bon, ça c'est ma première critique. La deuxième critique, alors là, elle est de l'ordre non plus de l'idéologie, mais elle est de l'ordre de la théâtralité. C'est-à-dire que tu dis et le résumé le dit que cette jeune fille, elle est obsédée par la danse, elle s'exprime par la danse, mais la danse au théâtre, dans ce spectacle-là, ça devient quelque chose en soi. Et on n'est pas, on a l'impression que c'est un truc qui est là et qui est extérieur au spectacle lui-même, donc à l'empathie qu'on peut avoir. Ça se traîne, ça dure, c'est explicatif, c'est lourd, c'est grossier. Et tout ça, c'est vraiment dommage. Donc, on est en face d'un spectacle qui pourrait être absolument exceptionnel et qui est pas mal, plein de bons sentiments à l'américaine. Tout ça, c'est bien. C'est, voilà. Et avec des comédiens, évidemment, qui sont pas mal du tout. Les quatre sont pas mal. Bon, l'autre jeune femme est un peu bon, mais sinon, c'est...
Non, mais
c'est
Morgane Lostis
elle est extraordinaire.
Vous voilà. Qui parlez toujours du théâtre d'incarnation.
Ah non, là, elle est totalement incarnée. Elle est...
Totalement. Et voilà. Alors le fait qu'elle danse, elle ne danse que trois fois.
Oui, oui, mais bon, enfin bon,
mais
c'est
le
un
fait
peu...
qu'elle danse, on se dit mais la légèreté qui sort alors que dans toute la pièce elle a un corps lourd, elle se traîne par terre et puis elle est.
Oui, mais tout ça est un peu lourd là encore dans l'explication quoi. Et puis la dernière critique que je ferai, bon, c'est toujours la même, c'est que moi j'en supporte plus. C'est à la fin du spectacle, ces discours, là encore.
Je voulais vous faire sortir de la salle avant. Non, parce que je me suis dit, ça y est, ils vont tout polluer, le pauvre Jean-Luc Génère.
Bon, ensuite. Vrai, franchement, je sais bien que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais
ils ont besoin de public.
Mais oui, mais d'accord, mais on s'en fiche. Le problème, on fait un spectacle qui est vraiment au comble de l'émotion. On est là, oui. On est pris là-dedans, et puis tout d'un coup, on vous vend de la marchandise. C'est pas acceptable. Il y a quelque chose qui va pas chez les comédiens de faire ça. C'est évidemment qu'on a envie que, mais c'est notre boulot à nous ici de dire allez voir ce spectacle.
Alors
allez
voir
ce spectacle. C'est pas le leur, mais voilà, allons voir ce spectacle, voilà. Bien sûr.
Et comme vous venez de le dire, on est au comble de l'émotion.
Mais voilà, exactement. Mais c'est pas à eux de tuer l'émotion en disant attendez, ne partez pas surtout parce qu'on a un truc à vous vendre avant que ça.
Voilà. Et nous disent d'aller sur Billets Réduits et de mettre trois étoiles, quatre étoiles
si vous avez aimé. Vous, là,
c'est
si
le
vous avez
système
pas aimé,
qui veut bon. Ça, mon cher.
Mais oui, mais ce n'est pas acceptable.
Mais c'est le système. On va pas faire la Révolution française.
Si, il faut faire la Révolution et que les gens de théâtre commencent par ça, quoi.
Bon, donc au comble de l'émotion. On est d'accord, et quand on voit que la Provence disait à mi-chemin entre le coup de poing et le coup de cœur, et Politique Magazine dit l'émotion et la poésie partout présentée accompagnent l'espoir. Partout présente, ça accompagne l'espoir. Et c'est vrai, c'est une pièce délicate qui traite du handicap avec sobriété et tendresse.
Il faut dire aussi que c'est Nadir qui nous a conseillé d'aller le voir et que
Nadir
va nous en parler.
Oui, je l'ai vu ce spectacle-là. Donc moi, je l'ai vu à Avignon quand il a démarré. Et moi, j'ai été doublement touché, déjà par la performance des comédiens.
Et puis parce que tu es bon.
Hein ?
Tu es un homme bon.
Bah, non. Déjà, non, là, non, là, je parle du jeu des comédiens.
On est tous d'accord que
Morgane Lostis est absolument extraordinaire dedans. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et après, j'ai découvert que ce spectacle est un... Quand j'ai rencontré l'autrice, donc l'une des autrices, Mélodie Molinaro, qui avait aussi la mise en scène.
Pas l'auteur, quoi.
Enfin, parce qu'il y a deux auteurs, c'est pour ça.
Il y a François Borrand et Mélodie Molinaro.
En fait, le point de départ. Deux auteurs. Voilà. Et en fait, le point de départ, c'est ce qui m'a encore plus touché, c'est que c'est à peu près la vie de Mélodie Molinaro qui. Sa petite sœur est exactement comme le personnage de la jeune fille dans le spectacle.
De la petite Lola.
Voilà, de la petite Lola. Et en fait, elle voulait montrer comment un enfant un peu autiste, renfermé sur elle-même, pouvait évoluer d'une manière ou d'une autre, mais elle ne voulait pas le voir avec son propre prisme. C'est pour ça qu'ils ont écrit cette pièce à deux.
D'accord.
Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais punaise, donc là, Elle me parle de la vision de la grande sœur. Et après, et quand j'ai vu ce spectacle, j'ai dit, mais mon Dieu, leurs parents, parce qu'il y avait les deux parents, là, pour le coup, il n'y avait pas que le père, donc, contrairement à cette pièce-là, je dis, mais ça doit être terrible pour un parent d'avoir peur en permanence pour son enfant. Je ne vais pas dire au point de s'abandonner. Si, parce que lui, c'est ce qui arrive dans l'histoire de ce père. Il abandonne presque complètement tout pour sa fille, qu'il élève tout seul, puisqu'on comprend que la mère, malheureusement, est décédée à la naissance, à l'accouchement. Et moi, ce spectacle-là, et pourtant, Dieu sait que je l'ai vu à Avignon, je l'ai revu à Paris la semaine dernière. Et malgré ça, je trouve que ce spectacle, au fur et à mesure, parce que moi, je l'ai vu évoluer entre Avignon et Paris, je trouve que ce spectacle, même si on le connaît, touche beaucoup. Et alors, ce que tu disais, Jean-Luc, par rapport au racisme anti-handicapé, c'est une scène qui doit durer peut-être, allez, 3 minutes sur un spectacle d'1h20, cette fameuse scène au marché aux fleurs. Enfin, et encore, c'est raconté par la compagne du père. Et moi, ce que j'ai surtout vu, c'est comment, par des choses absolument insignifiantes, donc le fameux origami et ces trucs-là, une jeune fille, enfin un enfant en retard et autiste, peut réussir à évoluer à partir du moment où elle est bien entourée, autant par ce jeune orthophoniste qui lui fait découvrir ça, et autant par un père très aimant et une future belle-mère, parce qu'on peut, même s'ils ne vont pas se marier. Voilà, en fait, c'est plus l'amour des gens qu'elle a autour d'elle qui lui permettent d'évoluer encore plus que l'origami. L'origami est un exercice en soi.
Parce que le danger, c'est la raison pour laquelle elle danse, et c'est la raison pour laquelle on a des projections d'oiseaux, et c'est la raison pour laquelle on a ces origamis d'oiseaux. Le danger, c'est que tout se rétrécit autour de cet enfant. C'est-à-dire que lui n'a pratiquement plus de boulot, il part au boulot, mais enfin, il écrit son journal, il est dans l'introspection, il cherche, et il veut des résultats tout de suite. Et il n'y arrive pas. Et donc, on a ce rétrécissement de cet univers familial qui devrait s'ouvrir avec la nouvelle compagne qui arrive, mais qui n'y arrive pas à faire ouvrir cette
œuvre. Dieu sait pourtant l'effort qu'elle fait, les efforts qu'elle fait.
Et Dieu sait ce qu'elle fait. Et puis, il y a cette rencontre avec Jérémy, qui aussi va être dans l'enfermement de cette famille. Et en fin de compte, alors là, il faut aller voir la pièce pour savoir comment...
comment en dire trop.
Mais les numéros dansés...
Et les numéros dansés, c'est ça. Voilà. C'est de s'ouvrir, c'est de faire péter cet univers.
Elle qui est d'un mutisme carcéral. Absolument bouleversant pendant toute la majeure partie du spectacle.
Oui, mais c'est des trucs gros, je sais pas, c'est des procédés qui vont pas, c'est énorme.
Ben, c'est au tout public.
Au
lieu de vous de laisser le spectateur libre, on vous impose quelque chose. On est en train de vous expliquer, attendez, c'est quand même scandaleux ce qui se passe avec les handicapés, ça va
non,
pas.
Non, mais 3 minutes,
bien,
comme l'a dit Nadir, c'est 3 minutes.
Non, mais quand même, le spectacle, il est quand même autour de ça. Et les danses, elles sont là pour surajouter à ça, pour vous expliquer ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut vivre, ce qu'il faut sentir. Ça, c'est ça qui ne va pas au théâtre. Le théâtre, c'est la liberté du spectateur. Voilà.
Là, je suis d'accord.
Mais là, c'est pas le cas. Là c'est un truc. Si vous sortez de là en disant, attendez, vraiment, je hais les handicapés, mais on va vous fusiller au coin du bois.
Bah, évidemment, heureusement.
Là, c'est pas possible.
Alors,
tout ça est un peu plus compliqué que. Voilà. Bon.
Alors, vous avez vu une autre pièce, c'est Allez, Saillon, cette fois-ci.
Oui, et puis j'ai vu aussi. J'ai surtout vu quelque chose que je n'ai pas vu. Et là, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est la première fois en 50 ans que ça m'arrive. C'est-à-dire que je suis allé voir les deux Corées, le spectacle de
Pomera,
et on m'a refusé l'entrée.
Ah bon?
Oui, alors que l'attaché de presse avait été prévenu. Voilà. Et ça, c'est la première fois en 50 ans. Et je suis tombé sur un espèce de crétin qui m'a, voilà, en disant non, on n'a pas les vos places. Et le type, d'habitude, bon, même, admettons même que l'attaché de presse que j'ai eu depuis m'a juré qu'elle l'avait laissé le message. Mais admettons même, d'habitude, ils vous laissent rentrer, et puis ensuite, ils vous disent, bon, il y a eu un problème, il y a eu un manque, etc., etc. Là, je suis tombé sur un espèce de crétin. Mais vraiment, c'était hallucinant. Et en 50 ans, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que je n'ai pas pu aller voir la pièce de Pomera, donc je n'ai pas pu ici, je ne peux pas en parler.
La réunification des deux Corées.
La réunification des deux Corées, qui est, paraît-il, un très beau spectacle. C'est quand même très grave. Et j'en parle, bon, c'est une affaire évidemment individuelle, mais c'est aussi parce qu'il y avait, de la part de ce garçon qui m'a empêché de rentrer, un mépris, mais total, de ce que c'est que la critique dramatique. Il n'a même pas voulu voir ma carte de presse, il n'a même pas voulu téléphoner à la attachés de presse, en disant, mais bon, tout ça, non. Et il a voulu, non mais c'est très important, et il a voulu que je paie, en disant, mais vous payez votre place, et à ce moment-là, je vous fais rentrer. Sans comprendre que, déontologiquement, un critique ne peut pas payer sa place. Non. Donc, et c'était extraordinaire, bon, cette espèce de mépris du métier que l'on fait, quoi. Et c'était vraiment, parce qu'on va pas au théâtre pour son plaisir, on y trouve du plaisir, mais on n'y va pas pour son plaisir. Et ils croient ça, je sais pas, c'était insensé.
On y va pour le plaisir des auditeurs, ah, j'espère.
Ah ouais. Alors. Sûr. Non, mais ça a l'air d'être une histoire personnelle, mais il faut le dire, quoi. Il faut le dénoncer parce que c'est vraiment grave, quoi.
Ça fait partie de l'actualité. Ah, oui. Alors vous avez été à l'Essaillon, là vous êtes bien accueilli.
L'Essaillon, je suis bien accueilli.
Vous savez d'ailleurs que l'Essaillon va fêter son 70e anniversaire.
Ah, quand ça.
Et nous aurons la joie de faire un spécial Essaillon le mardi 11 juin. Nous aurons notamment Victor Haïm, qui partie des meubles de l'Essaillon, qui viendra nous parler de toute cette histoire. Bon, donc, à l'Essaillon, qui est dans une année de fête, vous avez vu Rimbaud Cavalcade.
Rimbaud Cavalcade, oui, oui. Alors,
merci.
C'est toujours le même problème.
Bon, alors ça parle de quoi d'abord ?
Ça parle de Rimbaud.
Bon, voilà.
Ah bah encore heureux.
C'est un seul en scène ?
C'est un seul en scène, une fois de plus, un de plus. Oui. 75 dont on parlait la dernière fois. Hein, donc, voilà. Bon, alors, le jour où j'y étais, il y avait deux classes, c'était bourré, parce qu'il y avait deux classes qui étaient là.
Donc c'est bien.
Qui découvraient, donc c'est très bien, qui découvraient Rimbaud. Qui découvrait la vie de Rimbaud, qui découvrait les poèmes de Rimbaud, qui voilà. Bon, alors c'est toujours la même chose. Pourquoi ce genre de spectacle ? Alors, on se dit mais alors, c'est quoi ?
C'est un biopic, ça raconte la vie de Rimbaud.
Ça raconte la vie de Rimbaud.
D'accord.
Alors voilà, bon c'est très bien, mais c'est un truc de prof, c'est pas un truc bon. Alors sauf que évidemment le comédien est très bien, il s'appelle Romain Puyvelo, c'est un bon comédien, il a beaucoup de charme. On est plongé dans l'histoire de Rimbaud. Ce qu'elle raconte, c'est un gars qui fait un métier un peu particulier. Et puis il découvre la vanité de son travail. Il y a une altercation avec son patron. Et puis sa collègue lui offre
un exemplaire
de Rimbaud. Il tombe là-dedans et tout d'un coup, il rentre en Rimbaud, comme voilà. Et donc il va vouloir faire le même parcours que Rimbaud dans sa vie, en bicyclette
jusqu'en Afrique,
jusque partout, sauf en Afrique, parce qu'il ne va pas jusqu'en Abyssinie. Bon. Mais voilà, et donc il raconte ça, et à partir de là, bon, ben, de temps en temps, il nous dit un poème de Rimbaud. Tout ça est très intéressant, etc. Bon. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que moi, personnellement, j'aime pas Rimbaud.
Bon, ça commence bien.
Non, mais je veux dire que j'aime pas Rimbaud, c'est pas le poète qui me touche.
D'accord.
Ce que j'aime dans Rimbaud, en fait, c'est ce que j'appelle le sous-Verlaine. C'est-à-dire les petits poèmes, très, très courts, etc. Mais ce qui fait la gloire de Rimbaud, La saison en enfer, par exemple, Le bateau ivre, bon, tout ça, moi, j'ai toujours trouvé ça, mais sans aucun espèce d'intérêt. Ça ne me touche pas. Autant n'importe quel poème de Verlaine me bouleverse, autant le voilà. Bon. Donc, donc je suis toujours un peu...
Hermétique.
Un peu, mais plus qu'hermétique. Je suis un peu gêné par ça. La deuxième chose, bon, ben voilà, c'est qu'on se dit, mais attendez, il y avait deux classes. Mmh. Et là, c'est amusant, quoi. Et on va vous donner Rimbaud comme exemple de vie. Mmh. Alors... Mais attendez, on se dit, mais surtout aujourd'hui, alors dans cette période d'hygiénisme, etc., etc. Alors, c'est quoi Rimbaud ? C'est qui Rimbaud ? Rimbaud, c'est d'abord un sale gosse, quoi. Mmh. Hein, c'est un sale môme, quoi, qui crache sur tout le monde, qui chie sur tout le monde, qui se conduit comme un gougnafier, un homosexuel patenté, obsédé. Voilà. Donc, c'est ça, le jeune Rimbaud, quoi. Et qui écrit des poèmes un peu comme une protestation. Bon, et là, on avait ces deux classes qui étaient là, et on vous montrait Rimbaud comme un exemple extraordinaire d'une vie, voilà. Bon, ben, je suis désolé. Alors, on va dire que je suis un vieux catholique, je suis un moraliste.
Mais vendeur d'armes et d'esclaves, voilà, ça vous plaît pas.
Voilà. Mais je trouve que la deuxième partie de la vie de Rimbaud est plus intéressante parce que là, il prend vraiment des risques personnels. Mmh. Il prend dans la deuxième partie, quand il s'en va, Je pense que si Rimbaud était encore vivant, il nous le dirait, que la deuxième partie de sa vie a été 100 fois plus passionnante que la première partie où, c'est une partie de sale gosse. Ensuite, là, il prend des risques de vie. Il est courageux, il a un vécu. On lui coupe la jambe, hein, faut pas oublier. Hein, il termine, mais voilà. Bon. Mais la première partie de sa vie, et ses poèmes, alors si on trouve ça sublime, bon, si on pense que ça a révolutionné la poésie française, que c'est extraordinaire, mais la révolutionner, moi, je trouve que c'est pas la révolutionner en bien. Bon, voilà.
Bon, ok. Donc Rimbaud Cavalcade. Nadir.
Alors, moi, je vais vous parler de deux spectacles. Je vais d'abord rester au Théâtre de l'Essaillon pour vous parler de Hepta, le grand voyage du petit homme. Un spectacle écrit, interprété par Adrien Biri-Vicente. Je ne sais pas si vous avez vu Badine.
Oui.
À Avignon, oui, il y a trois ans. Et là, il est tout seul sur scène. C'est un spectacle tout public. Donc, ça marche autant pour les enfants à partir de 10 ans que pour les adultes. Et ça se passe dans un avenir. On est en 2050 ou 2500, je ne sais plus combien. Et il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de soleil. En fait, un enfant qui a rencontré un ange en étant plus jeune, en étant tout petit, va partir avec cet ange qu'il retrouve à la recherche du soleil pour le ramener auprès de ses contemporains. Et c'est un spectacle qui est doux, qui est beau, c'est musical, il chante. Les lumières qui ont été faites par Denis Coranski sont très belles. Et Adrien Biri-Vicente, qui interprète, je crois, 3 ou 4 personnages dans ce spectacle, est absolument excellent. Il est drôle, il est touchant. Vraiment, c'est un spectacle où on passe un très bon moment, même si on n'a plus l'âge pour ça. Mais on a quand même des pensées en tant qu'adulte qui sont très intéressantes par rapport à ce qu'il raconte, parce qu'il peut y avoir peut-être éventuellement des échos de notre époque actuelle. Et donc ça, c'est un spectacle qui se joue du mercredi au samedi jusqu'au 16 juin.
Et il est
samedi,
seul en scène, mercredi.
Et tout seul sur scène, c'est au Théâtre de l'Essaillon,
oui, tout à fait.
Et le deuxième, on va au Théâtre de Belleville. Mmh. J'ai été voir Salem, alors c'est une écriture collective avec Rémi Prin, l'ancien responsable des déchargeurs, et ses 4 comédiennes qui interprètent ce spectacle-là. Donc ça se passe dans la ville de Salem, au moment de la fameuse chasse aux sorcières, et 3 jeunes femmes partent en forêt pour faire une petite cérémonie. Elles en rencontrent une quatrième qui est la fille d'une sorcière qui a été brûlée peu de temps avant. Il va y avoir un rituel qui va être fait, sauf que ce rituel va être perturbé par les villageois, et en fait elles vont être considérées comme des sorcières, elles vont pas pouvoir se
défendre,
elles vont s'enfermer dans une école, et on va leur demander de donner des noms de ceux qui provoquent de la sorcellerie. Donc elles vont donner des noms auprès des dont elles pensent qu'ils font partie de la sorcellerie, pardon, et après, en fait, ça va être des noms qu'elles vont prendre comme ça pour tenter de sauver leur vie.
C'est les sorcières de Salem,
c'est ça. Pareil. En fait, non, justement, parce que dans les sorcières de Salem de Miller, on a plus la vision du village, alors que là, on est vraiment dans la vision de ces 4 femmes. Ouais. Même tous les villageois qu'il y a autour, on n'entend que des voix, et en fait, ces voix, on ne les comprend pas. On a l'impression que ce sont des voix sataniques, un peu déformées et tout. Tout est autour, même jusque dans le public, les sons, les lumières sont tout autour de ces 4 femmes. Ce sont 4 ou 5 scènes de huis clos, et c'est absolument stupéfiant. Ça dure 1h20, pas plus. Et c'est un très très beau spectacle qui se joue jusqu'au 28 juin au Théâtre de Belleville, les dimanches, lundi et mardi, dimanche à 20h, lundi, mardi 21h15. Et on est stupéfait par la mise en scène qu'on a fait Rémi, les jeux de lumière, les sons et les 4 comédiennes, il n'y a pas à dire, j'ai plus leur nom en tête et je m'excuse, sont absolument extraordinaires dans le jeu. C'est intense, c'est violent, même dans les termes utilisés. On sursaute, on est surpris par ce qu'on entend, on est choqué aussi par ce qu'on voit, et c'est vraiment un très très beau spectacle. J'avais raté Solaris, pareil, que c'était très bien, que Rémi avait mis en scène également, mais là, Salem, je vais pas dire que c'est du théâtre d'horreur, non, c'est un peu horrible, si, parce qu'il y a des histoires de sang, des scènes de sang et tout, et elles sont que 4, mais c'est un théâtre de genre auquel il a redonné, je trouve, moi, sur ce spectacle-là, avec ces 4 comédienne, puisque je rappelle qu'ils l'ont écrit en groupe, des lettres de noblesse qui sont un peu parties en désuétude.
En tout cas, ça donne envie.
Ah oui, donc à voir au Théâtre de Belleville, Salem, et c'est donc les dimanches, lundi et mardi.
Tout à fait.
À 20h30.
20h le dimanche et 21h15 lundi, mardi.
Très bien. Eh bien, il faut s'y précipiter, parce qu'un huis clos saisissant comme ça, avec 4 formidables comédiennes, et sur un sujet qui nous intéresse toujours, c'est à voir. Bon, Rimbaud Cavalcade, on y va, on n'y va pas ?
Bien sûr qu'il faut y aller. Bien
on
sûr,
y va.
Bien
donc,
sûr. Rimbaud non, mais il faut aussi...
on y va.
Là encore, c'est l'occasion de dire
faire
que...
Faire le distinguo. Oui.
C'est pas parce qu'on fait des réserves sur un spectacle qu'il ne faut pas y aller. Au contraire.
Alors donc, allez donc, voir Zourou.
Parce que c'est notre avis. Notre avis n'est pas l'avis de tous.
Évidemment.
Oui, alors, et puis, allez voir ce sont que des réserves. C'est pas...
Bien sûr.
Au Théâtre La Bruyère, chez nos nos amis houdinières. Et puis, on ira naturellement au studio de la Comédie Française pour aller voir la dernière nuit de Don Juan de notre ami Edmond Rostand. Et on peut lire le texte d'ores et déjà en folio théâtre chez Gallimard. Merci à vous deux, Jean-Luc Génère, Nadira Maoui. Merci à Cédric Cobat pour la réalisation, François Dudonné, Philippe Alpèche, Camille Meyer, Faustine pour la réussite technique de notre rendez-vous. Lundi, nous parlerons de l'impressionniste méconnu. Il s'agit de Gustave Caillebotte. Vous en ferez tout de suite un ami, c'est un type formidable. Allez, d'ici là, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse. Bon week-end.